Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de l'autrice de bande dessinée Florence Dupré-Latour autour des deux de ses bandes dessinées récemment parues, Jaune et Fauché, paru donc chez Charivari, et Les Moribonds chez Casterman. Bonjour Florence.
Bonjour.
Vous êtes autrice de BD. Comment est venue cette passion pour le dessin ?
Alors moi j'ai commencé à dessiner très jeune avec ma mère qui nous faisait dessiner l'après-midi et qui nous faisait cours le matin. Donc voilà, j'ai touché un petit peu à toutes les formes d'expression plastique grâce à elle dans mon enfance. Et ensuite j'ai complètement laissé tomber cette pratique comme beaucoup d'enfants qui grandissent pour la retrouver à l'adolescence quand j'étais très très mal dans ma peau. Et pour moi c'était une sorte de langage secret, un moyen d'expression très personnel qui me permettait d'évacuer des angoisses. Et quand j'ai passé mon bac, j'ai eu le choix entre... j'avais envie de faire de la philo, j'avais envie de faire du théâtre et du dessin. Et finalement, j'ai choisi le dessin, ce qui me permet de faire de la philo et du théâtre.
Ces dessins que vous faisiez quand vous étiez plus jeune, vous avez fait quoi avec ?
Je ne les ai pas gardés. Je ne les ai pas gardés, non.
Vous n'avez pas brûlé non plus ?
Non, je ne les ai pas brûlés. J'en ai quelques-uns encore. C'était des dessins assez anxiogènes qui représentaient des scènes avec des monstres. C'était assez dark, en fait.
Vous avez commencé à publier en 2006 avec une première BD qui était très remarquée, Capucine. Aujourd'hui, on découvre donc la BD Jaune et Fauché qui vient d'être publiée chez Dargaud, que c'était quand même un chemin de croix avec beaucoup de galères, quoi.
Ouais, dans cette bande dessinée, je retrace des souvenirs autobiographiques autour de mon rapport à l'argent, de mon rapport surtout au fait de ne pas avoir d'argent. Et donc, j'explore le domaine de l'argent dans les relations familiales, depuis l'adolescence jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte. Et moi, quand j'ai commencé à faire de la BD, j'ai fait une école de BD, de dessin, et je pensais pas du tout que j'allais galérer à ce point-là. Et que voilà, la précarité serait vraiment constante dans mon rapport à l'argent.
À ce moment-là, vous n'aviez pas une vue ou des amis ou des gens autour de vous qui étaient déjà auteurs, autrices de BD en particulier justement et qui pouvaient vous donner ce genre d'informations ?
Non, moi j'étais très très seule dans tout ce qui était petites astuces pour savoir comment commencer un métier. Comment contacter des éditeurs. J'étais absolument ignorante de tout. Et donc, j'ai commencé, après mes études de dessin, à faire des boulots qui n'avaient rien à voir avec le dessin, parce que je devais payer mon loyer et mes factures.
Et l'autobiographie est l'œuvre que vous construisez depuis le début, au travers de vos BD.
Alors moi, je fais de l'autobiographie parce que j'ai pas le choix. Ça s'impose à moi, il faut que je le fasse. Donc c'est assez mystérieux, mais c'est une sorte de force inconnue, très puissante. Et tant que je ne me suis pas débarrassée de ça, ça reste dans ma tête, ça tourne. Et il faut que voilà, je puisse transformer des souvenirs pénibles en quelque chose d'autre. Ce n'est pas du tout une démarche psychanalytique. La psychanalyse, c'est autre chose. Là, c'est une sorte de processus magique. Qui met à distance tout en produisant une nouvelle matière qui me permet de rire de mes mésaventures notamment et d'en faire aussi un projet esthétique.
Il y a beaucoup d'autodérision dans votre travail, beaucoup de questionnements sur pourquoi est-ce que les choses se passent de cette manière-là. Donc vous travaillez aussi beaucoup par thématique.
Alors c'est vrai que dans mon travail autobiographique chez Dargaud, j'ai travaillé par thématique. C'est un choix, on va dire, pragmatique, parce que je voulais raconter ma vie, mais j'avais trop de choses qui s'embrouillaient, je ne savais pas comment attraper ça. Et donc j'ai choisi de clarifier un petit peu mes souvenirs en m'attaquant, par exemple, dans ma première autobiographie, sur mon rapport aux animaux, mes souvenirs avec les animaux, pour parler de la hiérarchie dans le vivant, de la domination des humains sur les animaux. Et par la suite, j'ai divergé sur mes souvenirs autour de l'apprentissage de la sexualité, donc grand tabou dans la famille. Donc c'est un processus narratif, moi, qui me fait beaucoup rire, et d'aller questionner ça, et qui me fait du bien aussi, parce que je m'intéresse beaucoup au silence. Tout ce qui est silencieux dans ma famille, ou des silences que je m'impose aussi à titre personnel, ça m'intéresse. En fait, ça crée une sorte de mécanisme dans mon esprit qui me pousse à imaginer plein de choses. Quand il y a du silence, quand il y a du non-dit, on imagine plein de choses. Et je pense que c'est cette force-là qui me pousse à écrire sur l'autobiographie.
C'est magnifique de l'entendre, parce que je pense que nous sommes tous plus ou moins habités par cela, et vous mettez ça vraiment au bénéfice de l'art et de partage avec nous. Donc je vous remercie. J'ai pris énormément de plaisir à lire Jeune et Fauché, même si tout n'est pas spécialement drôle en soi, on va dire. Vous transformez ça d'une manière assez légère, en quelque sorte, pour nous. Et ça passe aussi par votre trait de dessin, qui peut être très délicat, voire un peu enfantin. Est-ce que ça fait mieux passer la pilule ?
J'aime le contraste. Et si je devais dessiner mes mésaventures, qui sont des mésaventures dures, en fait. C'est dur, ce que je raconte. Voilà, quand on n'a pas de thunes, quand on est complètement angoissé, assailli par des angoisses d'argent, quand on a des problèmes de santé mentale à cause du manque d'argent, quand on se sent comme une merde, quand on essaye de retrouver une forme de dignité, c'est des choses que beaucoup de gens connaissent, hein, pas que les auteurs de bande dessinée, hein, c'est très commun dans la vie des gens, c'est pas drôle. Et je voulais pas enfoncer le clou avec un dessin réaliste, un dessin tire-larme. Et donc, j'ai un dessin qui dédramatise absolument le propos et qui offre une sorte de contrepoids au sujet.
Dans les couleurs aussi, d'une certaine manière, parce qu'elles sont assez douces, même quand il y a, par exemple, l'expression d'une colère.
Oui, moi, je travaille à l'aquarelle. Donc c'est une technique que j'aime beaucoup. C'est déjà une technique dangereuse. Donc si on se foire, il faut recommencer. On peut pas revenir en arrière. Et c'est une technique, en effet, à l'eau qui est pleine de charme, qu'on peut pas maîtriser complètement. Moi, j'adore quand on a des effets de surprise. Alors parfois qui sont heureux, c'est formidable. Parfois qui sont malheureux, et là on recommence. Mais je suis très angoissée par l'arrivée des IA, l'arrivée du robot dans la vie des gens et des artistes, notamment. Et donc, je me tourne de plus en plus vers des pratiques, on va dire, des pratiques aléatoires, où l'accident est constant.
La particularité de Jeune et Fauché, c'est que vous êtes quand même de base dans un environnement bourgeois, vraiment plus. Vous avez la possibilité d'évoluer dans une famille aisée avec, par exemple, Nago, qui est une maison secondaire qui ressemble vraiment à un palace. Enfin, tout ça est assez merveilleux. Mais pour autant, vous rencontrez ces problèmes d'argent et vous êtes quand même en contact permanent, en tout cas très souvent, avec vos parents qui ne vous aident pas. Ça ne s'explique pas.
Moi, j'ai pas de réponse à ça. Je suis pas à leur place. C'est ambivalent. Je montre cette ambivalence dans l'album. Comme j'ai tellement honte d'être pauvre, je le cache. Et je dis toujours, tout va bien, j'ai pas besoin d'argent. Mais il y a des choses qui transpirent. Notamment avec mon appartement. J'ai un appartement qui se décrépit et qui tombe en lambeaux. Les murs se fissurent, les papiers peints sont arrachés, le lino est décollé, les prises tombent. Tout par avolo. Et c'est ma façon de crier à mon entourage ma situation. Et n'importe qui, d'un peu bienveillant, se serait rendu compte de ma situation en voyant mon appartement. Et il y a un aveuglement familial sur cette question-là, je pense. Ouais.
Ça va même peut-être un peu plus loin, si je peux me permettre. Tant qu'électrice, quand je vois dans vos planches, à un moment, votre maman est venue dans votre appartement et voyant l'appartement dans l'état dans lequel il est, elle a vous dit qu'il faut que vous achetiez un.
Oui, donc c'est une déconnexion totale du réel. Voilà, quand les gens vivent dans le confort, parfois on peut être complètement déconnecté en fait de la réalité de ce que vivent la plupart des Français en fait. Mmh. C'est-à-dire on gagne pas beaucoup de thunes. Hein. Et c'est un manque d'imagination, c'est un manque d'empathie sans doute et de bienveillance. Et je ne sais pas d'où ça vient.
Et alors, comment a été la réception? Parce que peut-être vos parents, ils ont eu la BD entre les mains depuis.
Nous n'en parlons pas.
Nous n'en parlons pas.
Est-ce que dans ces moments de galère, il y avait quelquefois dans ce désespoir des envies de faire autre chose que de la BD?
Non. Moi, j'ai vraiment, je me suis accrochée à la création artistique de manière désespérée. Je ne pouvais pas faire autre chose. Et même aujourd'hui, je ne peux toujours pas faire autre chose. Même si j'ai donné des cours de bande dessinée, c'est la seule activité qui était accessoire, hein, qui était annexe à la création, mais qui me permettait quand même de parler de création. Et de transmettre. Donc j'arrivais à peu près à accepter cette activité-là, mais elle me frustrait horriblement, parce que tout le temps que je passais à donner cours, je ne le passais pas à créer. Alors pour moi, c'est jamais avidissant de travailler, parce que quand on a besoin de bosser, il faut y aller, quoi. En revanche, je dirais que rester dans un travail qui n'a pas de sens pour nous, ça, c'est terrible. J'en ai fait des boulots qui n'avaient pas de sens parce que j'avais besoin d'argent et je ne me voyais pas du tout continuer toute une vie comme ça. C'est pour ça que voilà, les auteurs et les autrices sont très précaires, mais je ne mets pas du tout les auteurs et les autrices au même niveau que les gens qui vont à l'usine, par exemple. Pas du tout. Même si on a à peu près le même niveau de vie, c'est-à-dire pas grand-chose, les auteurs et les autrices, les artistes, font des choses qui ont du sens pour eux.
Searching.
Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus avec Florence Dupré-Latour et on parle de ces BD.
Vous auriez pu aussi bénéficier de certaines aides.
Alors moi j'avais des aides au logement, mais les allocations familiales. Donc en tout ça devait faire 300-350 euros, un truc comme ça, ou 400 maxi, je ne sais plus. Mais je refusais d'aller demander le RSA parce que j'avais trop honte. Moi, je m'appelle Dupré-Latour, on est des bourgeois et je ne pouvais pas déchoir comme ça. C'était pas possible. Et quand on regarde les chiffres avec tous les gens de droite qui crachent sur les pauvres en disant, et les allocataires en disant que c'est des gens qui profitent du système, les chiffres prouvent le contraire. C'est-à-dire qu'il y a 1 milliard qui est dévolu au RSA. Mais finalement, il y a aussi 1 milliard d'allocations qui ne sont pas demandées par des gens qui y ont droit. Voilà.
Ouais. On a le sentiment quand même que vous êtes politiquement très résolu dans votre tête.
Oh, ça bouge toujours. Mais ouais, j'ai quelques caps, notamment concernant... C'est un album pour moi qui voulait... je voulais aussi, à travers ces pages, réhabiliter l'image de la personne précaire. Mmh. Ça fait 20 ans qu'on tape sur les pauvres, quoi. Et les discours sont de pire en pire. Mmh. Et moi, toutes les personnes précaires ou pauvres que j'ai pu rencontrer, des gens au RSA, des gens au chômage, des gens qui étaient en galère, c'était des bosseurs, en fait. Mmh. Alors, il y a quelques exemples, bien sûr, dans mon entourage de gens qui... je ne vais pas dire que c'est des profiteurs du système, parce que parfois, c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de handicap, et qui n'ont pas le choix. Et donc c'est vachement rare en fait des gens qui profitent du système. Et encore, profiter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment être avec un minimum vital très 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 complexe pour payer tout. C'est pas possible avec un RSA. Donc là-dessus, je voulais vraiment parler de la dignité des personnes précaires à travers ce récit.
Vous étiez plus jeune, fauché. À ce moment-là, vous parlez de souvenirs, donc c'est un moment, un instant de votre vie du passé. Vous êtes quand même une autrice à succès, primée. Néanmoins, on entend bien que ce statut d'artiste reste un statut très précaire. Mais à l'époque, on vous sent aussi, au travers des pages de votre BD, mal à l'aise avec des personnes pauvres. Petit à petit, mal à l'aise aussi avec des personnes riches. Vous étiez déjà mal à l'aise aussi avec vos parents, d'une certaine manière. Comment vous vous sentez auprès des gens des différentes classes sociales aujourd'hui?
Moi, je suis du côté des pauvres. Les bourgeois, je les hais très, très clairement, mais je les détestais déjà quand j'étais petite. Moi, j'ai eu un choc esthétique et moral très, très fort quand j'habitais en Argentine. Et on habitait chez les riches en Argentine. Et pour aller à l'aéroport, l'aéroport était loin de Buenos Aires. Et de la ville, et il fallait prendre la voiture et conduire longtemps. Et on passait devant les bidonvilles. Et là, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est pas possible. Y a des gens qui vivent comme ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça m'a mise très en colère. Donc j'ai compris, en fait, la question de la classe sociale très jeune.
Je voudrais aussi qu'on puisse parler un petit peu les moribonds. Avec les moribonds, là encore une fois, on est en train de parler de différences de classe, mais des vampires qui rentrent et des moribonds aussi qui rentrent en scène. Comment est venue cette idée de travailler avec ce genre de personnages?
Alors moi, je raconte dans cette histoire, c'est une histoire de genre, c'est une fable politique, satirique, c'est une chute de classe sociale. Donc ça m'intéresse, ça irrigue mon travail, la question de la chute de classe sociale. Et ça faisait longtemps que je lisais des choses sur la lutte des classes, notamment dans un magazine qui s'appelle Frustration. C'est un magazine gratuit en ligne qui produit beaucoup de matière intellectuelle autour de la question de la lutte des classes. Et ça tournait dans mon esprit. Je ne savais pas trop comment attraper cette thématique sans en faire quelque chose d'un peu plombé. Depuis les années 80, la lutte des classes, ce n'est pas très sexy. Y a le polar qui s'en empare à chaque fois avec brio, qui parle beaucoup de lutte sociale. Mais sinon, dans alors le cinéma aussi s'en empare un peu, mais toujours un peu de la même manière, avec le méchant patron, le gentil ouvrier. Et je voulais raconter ça d'une autre façon. Et m'est venue l'idée de ce vampire qui est un vampire qui ressemble à l'image qu'en donne Karl Marx, c'est-à-dire le vampire qui est un bourgeois qui suce le sang des prolétaires. et donc c'est un vampire qui est puissant, qui est une sorte
charmant,
une sorte de dandy, avec un grand costume, une prestance, une élocution, voilà, c'est un bourgeois. Et ce vampire se retrouve confronté à une épidémie de morts-vivants qui ravage la terre entière et il n'y a presque plus rien à manger, il n'y a presque plus d'humains. Et lui, les humains, c'est son garde-manger. Mmh. C'est sa ressource. Et donc ce vampire se retrouve avec un petit groupe de personnes dont il se sert, évidemment, pour survivre, mais qu'il doit materner, paterner. Il doit s'en occuper, les nourrir, les protéger, les soigner. Et il se retrouve confronté à une activité totalement inconnue pour lui et très désagréable qui s'appelle le travail.
Et il y a une maman aussi. Il y a une maman, alors là, j'ai vraiment le sentiment que la maman est là pour le vampire. On ne pouvait pas rater ça. Elle est particulièrement odieuse, cette maman-là.
Alors oui, j'ai présenté plusieurs formations, on va dire, plusieurs projets de civilisation. Il y a eu une forme d'utopie avec ce groupe d'humains et ce vampire qui arrive à trouver une forme d'équilibre. Mais c'est une utopie qui grince un peu. C'est-à-dire que pour moi, l'utopie, il y a toujours un moment où elle se casse la gueule et les mauvais penchants reviennent. Mais ça reste quand même vivable pour tous les personnages. Et quand arrive la mère... Alors la mère, c'est pas vraiment sa mère, mais la génitrice de ce vampire, on est dans la dictature. Mmh. Voilà, donc c'est une représentation de la dictature.
Dans Le Moribond, ce vampire s'appelle Gabriel. C'est quand même pas rien, non ?
Ah oui, moi j'ai toujours des références religieuses qui diffusent. On n'échappe pas à sa culture. J'ai été très marquée par une culture religieuse chrétienne. Et ça ressort, bien sûr.
Votre arrivée avec cette BD chez Casterman, est-ce que c'est une rupture de façon de travailler ou un autre univers que vous exploitez dans votre imaginaire ?
Alors moi, j'avais déjà écrit des fictions quand j'ai commencé la bande dessinée avec Capucin que vous avez cité. Et je trouve que la fiction, elle est merveilleuse parce qu'elle n'a pas de limite dans l'imaginaire. On peut tout faire. L'autobiographie, pas du tout. C'est limité à mes souvenirs. Et je ne veux pas les trahir, donc j'essaye d'être respectueuse de ces souvenirs, même s'il y a de la mise en scène, même si le ton n'est pas le même. Il y a cette forme de limite. Et la fiction, non. Donc j'ai pris tout d'un coup un virage que j'ai proposé à Casterman, un virage fictionnel, et j'ai écrit cette histoire extrêmement rapidement parce que j'ai pris un immense plaisir à l'écrire. C'est génial d'écrire comme ça, on est sûr de soi, on sait l'histoire qu'on veut raconter, et dans cet univers-là, de morts-vivants et de vampires, ça peut paraître un peu léger, hein, comme souvent dans le genre, on dit ah ouais, c'est du genre.
Attends, mais non, mais là on parle de la fin du monde, non ?
Exactement. Et en fait, c'est vraiment une façon très très pratique de parler politique.
Une façon aussi de parler de ces fins de monde.
Oui, aussi, oui. Mais oui, ben oui, on est traversé, les auteurs, les autrices et tout le monde par des angoisses. Et alors on a la chance, nous les artistes, de pouvoir les traduire et d'en faire quelque chose, de les mettre à distance, et les lecteurs, les lectrices, de pouvoir partager avec nous ces angoisses. Et c'est une façon, ouais, sans doute, de raconter ce qui me traverse. Ouais.
On reconnaît bien vos traits, votre patte dans Les Moribonds, mais les couleurs ne sont pas les mêmes. Est-ce que là aussi, ça se joue quelque chose entre la réalité et la fiction ?
Oui, là, on est dans une fin du monde. Je voulais, avec des histoires de morts-vivants, il me fallait des couleurs acides, des couleurs corrosives, des couleurs qui rappellent le cadavre. Voilà, donc c'est la catastrophe. Il y a beaucoup de vert, beaucoup de violet, des roses. Donc, là, je m'amuse bien avec les couleurs.
Une dernière question. Qu'est-ce qu'il est devenu, votre sac de couchage ?
Mais je l'ai jeté, mon sac de couchage. Il était percé.
Bon, pour ceux et celles qui ne savent pas pourquoi je posais cette question, il faut lire Jeune et Fauché. Vous allez découvrir. Et aussi Le Moribond. Toutes les deux, des super BD. J'ai adoré. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est la fin de l'émission. Le nombril de Vénus sur Canal B.
À l'envers, attiré par l'extase, un tourbillon vert illumine les sirènes. Suédoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine.
Merci de nous avoir écoutés ici sur l'antenne de Canal B. C'était l'émission Le Nombril de Vénus que vous pouvez également trouver pour écoute en podcast sur le site de canalb.fr. Bon week-end à tous et à toutes. Allez, bisous, bye.
S'est envolé, traçant un arc dans la nuit, de la couleur des opiacés. Sous la voûte, je m'évanouis, j'extirpe ma tête hors de nos jeux dans lesquels je me crois mort. Je suis seul avec l'or de l'eau. Sous la surface de l'aurore, je quitte le va-et-vient des âmes. De l'autre côté du plongeoir,